Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Burnout, la nouvelle interface de la 360, ce qu'on a retenu du Tokyo Game Show cette année, les petites news de Blizzard qui va s'amuser à faire plus d'argent encore avec ses jeux, de Blob, le jeu de la semaine, Monsieur Fall, qu'on recevra pour la chronique jeux de société, et on fera un petit point par ce qu'on l'a vu de nos yeux sur Prince of Persia. Mais tout de suite, j'accueille mes deux chroniqueurs, donc Patrick Helio d'Eurogamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Erwan Higginen qui remplace Clément Apap qui n'est pas toujours pas rentré du Japon. Donc Erwan Higginen des Inrock. Bonjour Erwan.
Bonjour.
On va commencer d'ailleurs par toi qui va nous parler de politique. Non, pas tout à fait, mais presque.
De politique et de voiture. C'est-à-dire voilà. qu'il y a quelques jours, il y a eu des joueurs américains qui jouent à Burnout Paradise qui ont cru voir quelque chose sur une des affiches publicitaires qu'on voit.
Qui ont cru voir parce qu'on passe très très vite devant.
On passe très très vite, ils n'étaient pas sûrs. Sur Internet, il y a des gens qui ont recoupé leurs informations et finalement, l'information a été vérifiée. Oui, ils avaient bien vu une affiche de publicité de Barack Obama.
Yes, we can.
Invitant les jeunes en particulier donc à voter, parce qu'en fait aux États-Unis on peut y avoir une procédure de vote anticipé, donc on peut voter dès maintenant. Donc cette affiche, je leur disais de voter dès maintenant pour donc Barack Obama, et ça a été confirmé. C'est effectivement ça fait partie officiellement d'une campagne de pub payée par l'équipe de Barack Obama, et EA, l'éditeur de Burnout, a tenu à préciser que ça ne reflétait en rien leurs opinions politiques, mais que c'était de la pub.
D'accord. D'ailleurs, en fait, je crois que l'industrie du jeu vidéo vote majoritairement, parce qu'on peut voir, vu que c'est public, les aides, enfin les chèques qu'ont signé les gens pour Et donc j'ai appris à cette occasion que Will Wright était républicain, ce qui est dingue, n'imaginais pas. Il finance McCain. Donc Obama dans Burnout, c'est juste que ça me paraît être un jeu super violent. Enfin en fait c'est quand même pas hyper moral comme jeu avec les carambolages et tout ça.
C'est uniquement pour le marché américain j'imagine, ou est-ce que ça concerne toutes les versions
A priori c'est uniquement le marché américain, et uniquement sur Xbox et pas sur PS3 ou PC. En tout cas c'est ce qui a été confirmé pour l'instant.
D'accord. Patrick, l'attend depuis longtemps.
Alors, pas un chiffre cette semaine, mais une date.
Une date.
19 novembre prochain. Donc, ça sera la date de sortie de la nouvelle expérience Xbox.
Xbox. C'est beau. Franchement, et quand tu penses qu'il y a des gens, ils sont payés très très cher pour trouver
une mise à jour totale de l'interface de votre Xbox 360 qui va complètement changer de forme, de couleur.
Et du coup,
etc.
Que vous allez pouvoir confondre avec celle de la Wii.
Il y a des points communs, notamment tu mets le point sur un sujet intéressant, c'est l'apparition des avatars sur la Xbox 360, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des personnages un peu à son image ou autres, et qui reprennent un peu le concept des Mi qu'on a sur la Wii.
Voilà.
Il y a d'autres fonctions aussi qui vont apparaître. Il y a la possibilité de créer des groupes d'amis. Oui, et aussi, moi, ce que j'ai noté qui, à mon avis, va être intéressant, ça va être d'accéder à des jeux créés par la communauté des joueurs.
D'accord.
Ça risque d'être très intéressant, c'est-à-dire d'avoir des contenus générés par la communauté à laquelle on va pouvoir.
Mais il y a quoi ça veut dire qu'il y a un kit de développement qui va être accessible à tout le monde ou...
Il y a déjà des kits de développement qui sont accessibles. Alors pas à tout le monde, mais il y a déjà des kits qui sont accessibles pour développer sur le.
Ah,
sur
ça
la
peut être, ça peut
donc
être
ça c'est une piste intéressante. En tout cas voilà, le 19 novembre, grosse mise à jour de la console avec un tout nouvelle interface de présentation.
Ce que vous avez vu pour l'instant de l'interface, vous en dites quoi?
Ça a l'air beaucoup plus simple qu'avant. On n'a plus le système d'onglets qui était un petit peu compliqué des fois pour aller chercher ces jeux arcade qui étaient en tel onglet, etc. Là, ça a l'air beaucoup plus
fluide,
un peu genre aéro sur le Vista, si vous voyez un peu.
Ce qui est un peu étrange, c'est qu'en fait, depuis quand une console, je pense en particulier la 360 sort, depuis elle, pour le joueur, c'est identifié à ce qu'il voit à l'écran, à la sensation de passer d'une page à l'autre et à certains bruits. Donc ça risque de faire très très bizarre. Et j'ai vu qu'en fait Microsoft laisserait la possibilité aux joueurs de conserver l'ancienne interface.
On pourrait garder.
T'en penses quoi de la nouvelle, Erwan?
J'attends de voir ça, mais moi j'ai envie de garder les petits bruits quand on passe d'une page à l'autre.
Ah, les petites pages qui se tournent, Alors, d'après ce que j'ai lu, on aurait besoin d'une capacité de stockage pour stocker cette nouvelle interface. Et c'est-à-dire que la version arcade sans disque dur ne pourrait pas le faire sans une carte mémoire. Donc Microsoft mettra en place des solutions pour en fait
il vendra pas cher soit vendra pas cher un disque dur
de 20 gigas
ou des cartes mémoire plus importantes
pour pouvoir stocker la nouvelle interface.
D'accord, donc ça arrive
le 19 novembre de cette année, donc
en fait on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas allumer sa Xbox le 19 novembre parce que ça va gonfler.
C'est le conseil que je donne en général, je ne mets jamais à jour ma bécane le jour de la sortie d'une mise à jour. On va me dire que je suis parano, mais
non, mais ça arrive. Il y a quelques mois, il y avait une grosse mise à jour du logiciel de la PS3 avec les trophées en particulier.
Il y en a qui ont laissé leur console en rade. Donc, mon conseil, c'est d'attendre au moins le 20 et de mettre à jour tranquillement pour être sûr que ça fonctionne.
J'ai peut-être suivi ton conseil.
Voilà.
Le com des coms, il n'y en a pas eu la semaine dernière, donc on va faire deux émissions d'un coup, deux com des coms d'un coup. Première réaction donc, de Truman, c'était sur la DSi, donc qu'on ne va pas évoquer directement, mais il en parle. Donc, bien vu pour la nouvelle DS, parce que nous en avions parlé avant l'annonce et on avait à peu près vu juste, enfin bon, tout le monde avait vu juste, on n'était pas les seuls. La première DS multimédia, rien de transcendant par contre, parce que multiplier les fonctions de la machine et baisser son autonomie, c'est un paradoxe intéressant qui me donnerait plutôt envie d'acheter la DS Lite. Hein. C'est pour Truman, c'est ils ajoutent trop de choses, ça va devenir une.
Mais les deux machines vont cohabiter, je pense. La DS Lite et la nouvelle DSi.
Oui.
On aura toujours le choix de.
Surtout qu'avec 80 millions de DS en circulation, je pense pas que les éditeurs vont prendre le risque de sortir des jeux qui ne fonctionneraient que sur la DSi.
Exactement.
En tout cas, pas dans un premier temps, le temps que le parc installé vaille le coup. Donc Guitar Hero encore des beaux jours devant lui. Faut dire que c'est Guitar Hero, vu qu'on perd le port GBA, on pourra pas mettre les petites touches.
Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les jeux en téléchargement qu'on va pouvoir stocker sur une carte SD ou sur la mémoire interne de la DSi. Surtout que déjà ceux qui ont pu acheter un linker ou certaines choses que Nintendo n'aime pas trop pour la DS ont déjà pu télécharger des jeux amateurs comme ça. Il y a des choses déjà très intéressantes.
Très intéressantes et on touche des fois au conceptuel, des choses, les attaques Wi-Fi. Enfin, il y a des choses très 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 rigolotes en homebrew comme on appelle ça.
Donc ça peut être prometteur.
Ça peut être prometteur. Hen qui parle là de l'émission de la semaine dernière ou qui était donc une émission musicale. En absence de chroniqueur, il demande un peu de surprise. Je connais très mal les musiques de jeux, mais j'avoue avoir été assez déçu par ce podcast. Je m'attendais à des choses un peu plus surprenantes de la part de l'éclectique Erwan, c'est moi. Les classiques étaient peut-être un peu trop classiques. Mea culpa. C'est vrai que la musique de jeu n'est pas une de mes spécialités. C'est vrai que je suis assez grand public, on va dire. Et c'est vrai que j'ai pris du très très classique. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de taper dans les musiques qui m'ont été conseiller dans les commentaires. Comme ça, on arrivera à quelque chose d'un peu plus original. Mais n'empêche que je l'ai réécouté et j'aime bien, moi, ma sélection. Et dernière question de Lautrec. Alors là, qui est une question plus générale. Bon, qui donne des compliments, qui fait des compliments à Silence en Joue, c'est toujours agréable. Vous passez sûrement pas mal de temps à jouer. C'est comme ça quand on est consciencieux. Combien de temps par jour, au fait? Allez, vous.
C'est difficile à juger par jour, parce qu'il y a des jours où on peut pas.
Non, donc, mais en moyenne.
Une moyenne.
Une heure.
Moi, je peux pas faire de moyenne. Ça peut être pas du tout pendant 4 jours, 5 jours si j'ai trop de travail par ailleurs, comme ça peut être 6 heures de suite.
Et en plus, 6 heures de suite, c'est bien ça.
Il y a aussi des périodes plus chargées en sortie. Là, en ce moment, c'est un peu la folie. Il y a des gros jeux qui sortent toutes les semaines. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on a plus tendance à jouer
beaucoup. Et alors, la deuxième question de Lautrec, c'est: mais vous arrive-t-il d'être saturé, gavé, ou gardez-vous toujours le plaisir intact, le plaisir de jouer? Ah, c'est une vaste question.
La saturation, moi, je connais, oui, ça arrive. Mais en général, dans les moments où je suis vraiment saturé, soit je coupe parce que c'est les vacances, soit il finit toujours par arriver un jeu qui me redonne envie.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. On a tous des genres qu'on aime naturellement, où là on sature pas parce que c'est un genre qu'on aime beaucoup, et puis il y a d'autres genres où on est moins
moi j'avoue qu'il y a vraiment
on peut saturer, ouais.
Moi il y a vraiment des périodes où, même si un jeu qui sort et fait partie de mes genres favoris, mais si je suis complètement saturé, c'est vrai que ça m'arrive de passer à côté. Bon, effectivement, professionnellement, on peut pas, des fois il faut donc que je me force à jouer.
obligé de jouer, c'est énorme.
Je raconte ça à mes collègues, ils ont un peu mal de mal à comprendre. Et donc, pour finir quand même rapidement, jouez-vous encore juste pour jouer, pour le plaisir?
Bien sûr, oui. Il faut.
Oui.
Mais il n'empêche que c'est une question que je trouve très intéressante, parce que des fois, il faut toujours garder à cet esprit-là. Finir les jeux, par exemple, après en avoir parlé et tout ça.
Ouais.
Toujours.
Il faut garder. Aujourd'hui,
continuer à jouer pour le plaisir, c'est indispensable. Si on ne joue
Aujourd'hui, tu allumes une Virtual Boy, c'est pas pour le travail, hein. c'est personnel. Vrai. Donc,
on est assez peu. Enfin, je pense que vous êtes peu à allumer régulièrement une Virtual Boy.
On est un tout petit groupe.
Tout petit groupe de deux.
Non, mais il faut garder. Évidemment, il faut garder le plaisir de jouer, sinon c'est pas possible.
Un petit test. Il s'appelle comment, ce jeu?
Non. Patapon. Voilà. Et on savait, donc c'est pas du jeu.
C'est pas du jeu. Patapon 2 fait partie des annonces, enfin en tout cas des jeux dont on a vu des premières images qui bougent au Tokyo Game Show de cette année, qui a eu lieu le week-end dernier ou la semaine dernière. Vous en avez retenu quoi de ce TGS? Allez, petite sélection des jeux qui vous ont retenu votre attention. Patrick.
Alors moi, le coup de cœur, quand même, c'est l'annonce de No More Heroes 2.
Ah oui.
Parce que moi, je suis un grand fan du premier. Et donc, l'annonce du suivant, je crois qu'il est prévu pour 2010. Hein, toujours sur Wii. Bon, voilà. Ça, j'attends beaucoup. Et sinon, ce que j'ai noté quand même sur le TGS, c'est quand même le coup d'éclat de Microsoft. Hein, qui est quand même le constructeur qui a fait le plus d'annonces. Je crois que c'était le seul qui a tenu une conférence sur le salon. Et c'est lui qui a multiplié, qui a été le plus actif, on va dire, en termes d'annonces. Donc, qui a annoncé, j'en parlais tout à l'heure, donc la date de la nouvelle interface, qui a annoncé un nouveau volet de Halo 3, donc qui va s'appeler Halo 3 Recon.
Ouais.
Donc, ça sera un standalone.
Ils auraient peut-être pu se passer du trailer, parce que c'est quand même pas le plus beau trailer du monde.
Ce qui est quand même amusant, je trouve, c'est que c'est le constructeur américain qui fait ses annonces, qui joue le jeu du Tokyo Game Show.
Ouais. En même temps, on sent bien que ça fait quand même des années et des années qu'il essaye désespérément de s'imposer.
Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'actuellement, ça fait quand même quelques semaines que la Xbox 360 est devant la PS3 en termes de vente au Japon. Mm. Donc il y a un phénomène qui est en train de prendre. Après, comment ça va se passer à l'avenir, à suivre. Mais en tout cas, il se passe quelque chose au Japon pour Microsoft.
Erwan, t'en as retenu quoi?
Diverses petites choses. J'ai été marqué un petit peu par une sorte de retour au premier plan de Sega, qu'on n'entendait plus trop et qui là a a présenté plusieurs jeux, et en particulier les jeux du studio des anciens de Capcom, qui s'appelle Platinum Games. Ils ont montré la vidéo en particulier de Bayonetta, qui est un jeu avec un personnage féminin.
C'est énorme, énorme.
Enfin, on fait un peu le tour de propriétaire dans la vidéo. Hein,
ouais, c'est d'un goût douteux. On ne sait pas exactement dans quelle mesure, quel est le degré d'ironie.
C'est d'un mauvais goût absolu, tu veux dire. Hein, c'est pas d'un goût douteux. Autre chose.
Oui, il y a eu quelques petits jeux comme ça. Et sinon, j'ai remarqué de façon un peu plus générale, il y avait eu la conférence Nintendo un peu avant le salon, qui ne faisait pas partie du Tokyo Game Show. Mais il y a un peu, on a l'impression, un retour un peu de Nintendo après l'E3, où ils avaient été beaucoup critiqués pour avoir peu montré de jeux vraiment gamer. Là, ils ont annoncé un retour du jeu Punch-Out, des RPG. Là, sur le salon, donc il y avait No More Heroes et Monster Hunter aussi, sur les jeux d'éditeurs tiers. Mm-hmm. Donc il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour sur la Wii en direction des joueurs dans des genres plus classiques, quoi. Il était un peu temps.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait l'annonce des jeux en téléchargement chez Sony pour la PSP.
Sony a annoncé qu'au Japon, désormais, les jeux seraient vendus simultanément, donc en UMD en magasin et en téléchargement via le PSP Store. Je crois que c'est le terme de la boutique
en ligne. Pour le même prix.
Oui, je crois. Hein,
mais pour une durée de batterie infiniment supérieure, vu que sans l'UMD,
faut la carte pour les stocker.
Oui. Pour l'instant, c'est pas annoncé pour l'Europe ni les États-Unis, je crois. Mais en tout cas, c'est une annonce qui a son importance pour la vie de la PSP. On voit que c'est un tournant.
On en parle très très régulièrement, mais pour l'aspect dématérialisé de plus en plus de l'industrie du jeu, que ce soit sur console ou sur PC, évidemment.
Nous, on n'y est peut-être pas encore tout à fait en Europe, parce que là, ce que Sony a aussi annoncé, mais cette fois-ci uniquement pour l'Europe, c'est ce mois-ci, je crois que le premier sur la semaine prochaine, mais il y a deux compilations disponibles en magasin sur UMD de jeux qui au départ n'étaient que sur le PlayStation Store en téléchargement. Donc en Europe, c'est un peu le contraire. Donc, on n'en est pas encore là.
Mais ça va venir. StarCraft, Blizzard qui fait de la, comment on appelle ça dans l'immobilier, de la vente à la découpe, c'est ça. Donc StarCraft 2, vous espériez, on était quand même assez nombreux à attendre ce jeu comme le Messi, et en fait on en aura un tiers. Patrick,
Oui, c'est assez étonnant. C'est vrai qu'on avait l'impression que le jeu était quasiment fini. On entendait parler plutôt de réglages aujourd'hui, de difficultés. Enfin, pour que le jeu soit vraiment parfait pour les compétitions, etc.
Invitational Worldwide, on avait eu l'occasion d'y jouer. Enfin,
donc, il était fini. Ouais. Et là, l'annonce tombe il y a quelques jours que le jeu va décliner donc en trois parties, donc trois épisodes. En fait, les trois campagnes, parce qu'on a trois races dans StarCraft, vont être chacune l'objet d'un épisode à part. Donc le jeu va être décliné en trois parties. Donc c'est assez étonnant, c'est quand même une première, notamment dans le domaine du jeu de stratégie en temps réel. C'est quand même
qui se découpe très très bien,
c'est
d'habitude.
Pas évident. Donc ça pose plein de questions, parce que le premier volet sera celui concernant les humains, par exemple.
Les Terrans.
Donc chronologiquement, ça sera le premier à sortir. On se pose des questions, est-ce que seront jouables en multijoueur toutes les races, par exemple, tout de suite.
Le multijoueur sera jouable en intégralité, mais il y aura du contenu en plus avec chacune des
le multijoueur avec les volets,
avec les deux autres tiers.
Alors par contre, d'après ce que j'ai compris, donc on avait normalement une dizaine de missions par campagne pour chaque race. Là, en revanche, vu qu'on va quand même racheter à chaque fois, là, on aura une trentaine de missions par campagne.
Mais c'est quand même étonnant. Enfin, Blizzard, s'il y a bien un studio au monde aujourd'hui où on peut dire au moins eux, ils n'ont pas de problème de thunes.
J'ai eu l'impression, en entendant passer l'annonce, que c'était plutôt un problème de temps.
Ah ouais.
Ben, tu vois, de dire il faut qu'on sorte le titre, on n'a pas fini forcément.
J'ai l'impression que parmi les fans, ça passe moyen ce genre d'excuses.
On a vu un peu le phénomène avec Half-Life 2. On avait eu le jeu complet suivi d'épisodes supplémentaires.
Oui, mais c'était vraiment c'était sur le principe de l'add-on qui se faisait beaucoup, justement, que Blizzard faisait
des épisodes
par ailleurs,
autonomes. C'est vrai qu'il y a c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est un cas d'école.
Et en fait, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que même si ça fait hurler, j'ai fait un chat hier sur Libération et ça a fait hurler énormément de gens cette annonce.
Mais les fans vont acheter.
Ils vont tous acheter.
Et combien vont-ils payer? C'est la question aujourd'hui, c'est à combien vont être vendus chaque épisode?
Et alors, pour rebondir sur ton truc, c'est une question de temps. Il n'empêche que, comme d'habitude, quand on leur demande quand, Blizzard répond bah, quand ce sera prêt. Et voilà.
Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on sait si les épisodes vont sortir en même temps ou à peu d'écart ou,
Non, non, le premier, même temps, mais... ce sera les humains. Donc, ce sera, il sera en premier. Donc, il y a une chronologie des épisodes.
Bon, bah donc, on vous parlera de la première campagne de StarCraft 2 quand il va sortir et pas du jeu en entier. On l'écouterait longtemps, cette chanson, cette musique de Blob sur Wii. Allez, Erwan, je te sens motivé pour commencer.
Oui, déjà, je pense qu'il faut revenir un peu sur l'histoire du jeu, parce que le jeu vient de sortir sur Wii, mais à l'origine, en 2006, il y avait un jeu créé par des étudiants néerlandais dans le cadre de leurs études, et qu'on peut trouver sur PC, et qui s'appelait donc The Blob, d'où vient ce principe, qui a été donc repris
alors,
sur Wii et sur iPhone, il y a une version iPhone aussi.
Le principe, raconte.
Le principe, on dirige un blob, une créature qui roule et qu'on peut faire sauter.
Espèce de barbapapa.
En quelque sorte, hein. Oui, qui évolue dans un monde qui est devenu très triste parce qu'il y a un pouvoir dictatorial qui a retiré toute couleur.
Je me sens très impliqué par le scénario.
C'est un jeu politique, on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite. Mais voilà, et donc notre mission va être de recolorer ce monde. C'est-à-dire qu'on dirige notre créature qu'on jette sur des espèces de cartouches de couleurs rouge, bleu ou jaune et on fait des mélanges et on repeint les bâtiments. Il y a des missions où il faut repeindre tel endroit de telle couleur, faire telle quantité de peinture en un temps limité, etc.
C'est un peu comme Okami, non ?
C'est dans le principe, oui.
C'est un Okami urbain.
C'est ça, c'est comme Okami parce qu'il faut rendre...
Je vais faire hurler des gens.
Non, c'est pas faux. On peut comparer à Mario Sunshine qui devient nettoyer la ville qui était toute tachée. Donc ça rejoint cette idée-là. Sauf que là, c'est vraiment littéral. C'est-à-dire qu'on jette notre créature sur les bâtiments et ça se colore et la musique change et les petites créatures sortent des bâtiments et nous acclament. Enfin, ouais, 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 comme ça. Enfin, c'est vraiment...
Tu les fais bien. Hein.
Mais je me suis entraîné avant de venir.
Ah oui, d'accord. Patrick, t'en as pensé quoi ?
C'est une très bonne surprise, en fait. C'est le genre de jeu qui ne paye pas forcément de mine quand on voit une vidéo comme ça ou quand on le voit tourner. Et c'est vraiment quand on a la manette en main qu'on y prend goût. Moi, ça m'a rappelé un peu l'expérience de Katamari. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un peu pareil. C'était un jeu comme ça, on le voyait de loin, bof. Ouais. Et une fois qu'on prenait la manette, c'est parti, on accroche, on a le principe.
On fait ses roues, c'est
mais
boule.
Ouais, et là, en plus, il y a tout un environnement. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans le jeu, c'est non seulement le graphisme, il y a vraiment une patte graphique intéressante, et la musique. C'est-à-dire qu'on repeint en musique.
On repeint en musique.
Et non, c'est super rythmé et un gameplay très accrocheur.
Ouais.
C'est vraiment très très sympa, ouais.
C'est-à-dire, ça se passe
alors, en fait, tu diriges ton personnage avec le Nunchuk. Et tu dois percuter les objets pour leur redonner de la couleur lorsque tu as une couleur sur toi pour repeindre. Et avec la Wiimote, tu donnes des impulsions pour faire sauter ton personnage ou tomber
et
sur des ennemis.
Et un niveau se finit comment ? Il faut avoir repeint toute la ville.
Il y a plusieurs objectifs en général.
Oui, il y a plusieurs objectifs. On peut le finir sans tout faire, mais il y a. Je crois qu'il y a un minimum de bâtiments à repeindre.
On peut traverser le jeu très vite.
Ouais.
Mais l'intérêt, c'est quand même de remplir toutes les missions. Toutes les missions accessoires, etc. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment sympa.
Ouais, parce qu'il y a un vrai plaisir déjà, rien qu'à diriger la créature déjà en soi, et ensuite d'envoyer la créature entrer en contact avec les bâtiments, c'est vraiment très
visuellement,
très
c'est
direct.
Sympa,
quoi, très,
Et est-ce qu'il faut avoir un peu de goût, entre guillemets, sur les couleurs, ou on finit par faire des mariages
Peut-être qu'il vaut mieux pas avoir trop de goût, justement.
Il vaut mieux pas être daltonien, c'est mieux, parce qu'il faut vraiment jouer avec les couleurs, parce qu'on nous demande des fois de repeindre, comme tu disais tout à l'heure, donc d'une couleur, donc il faut faire des mélanges, etc. Mais c'est vraiment sympa, même visuellement, quand on voit l'évolution. On arrive dans une ville, au début c'est tout blanc, tout gris, et après on la bariole dans tous les sens, et il y a un peu un côté de Jet Set Radio.
Ouais.
Je sais pas si vous rappelez.
Oui, c'était du tag.
Il y a un petit côté comme ça, vraiment sympa d'explorer comme ça la ville.
Et donc, ça fait quand même un peu partie de ces jeux un peu gamer quand même qui sont sur la Wii.
Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait c'est très accessible, très joyeux. en fait, à la limite, c'est presque le jeu qui tient le mieux les promesses de la Wii au départ. Alors qu'en fait, c'est paradoxal de savoir que c'était un jeu PC fait par des étudiants il y a 2 ans.
Ouais.
Mais c'est vraiment c'est gamer, mais pas seulement gamer. Enfin,
même
c'est...
s'il n'exploite pas la manette Wii plus que ça, en fait.
Non, non.
Ça reste assez accessoire.
C'est un peu
en fait,
gadget,
l'utilisation
faire sauter,
de la Wiimote n'est pas.
Et alors, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes assez d'accord, vous êtes assez pessimiste sur le fait que cette licence arrive à s'implanter.
Alors après, il faut espérer que le bouche à oreille peut jouer aussi. Parce que visiblement, l'accueil est plutôt très positif pour le jeu.
Et on parlait de Zack et Wiki, enfin, qui était un des jeux Wii
qui n'a pas eu le succès.
Faut espérer que ce soit un peu comme Katamari Damacy, qui n'a pas été un succès immédiat, mais il y a eu du bouche à oreille.
Ça a fait marcher.
C'était un peu un jeu culte, puis il y a eu des suites qui ont marché mieux que le premier jeu. Enfin, faut espérer un peu que ce soit ce genre de processus. En tout cas, on le conseille.
On conseille deux blobs sur Wii, édité chez THQ. Eh bien, on va accueillir, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net pour la chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vais vous parler du Spiel des Jahres 2008. Le Spiel des Jahres, c'est le prix du jeu de l'année allemand. Comme vous le savez certainement, l'Allemagne est the pays ludique, le pays du jeu, donc forcément son prix du jeu de l'année est probablement l'un des prix les plus attendus, les plus convoités et les plus étudiés de la planète ludique, tel que je vous en parle chaque semaine. Et là mon cher Erwan, vous me dites mais oui, mais le Spiel des Jahres a été remis il y a un bon moment mon cher Monsieur Fall. Et je vous répondrai, oui c'est vrai mon cher Erwan, il a été remis en juin 2008, sauf que le jeu n'était disponible qu'en allemand et il arrive là tout de suite maintenant sur les étals en français grâce à Philosophia qui l'a traduit. Et là, l'auditeur se dit « mais il va le cracher le nom du jeu, bon sang de bois ». Alors je vous réponds « Keltis » de Rainer Knizia. Keltis, c'est l'adaptation des Cités Perdues, un jeu du même auteur, un jeu pour 2 joueurs, et il l'a adapté pour pouvoir être joué de 2 à 4 joueurs, de manière plus conviviale et plus familiale, ce qui explique sans doute qu'il a eu ce Spiel des Jahres, car le format, le gabarit du Spiel des Jahres, c'est un jeu à tendance très très familiale, un jeu simple. Certains reprochent au Spiel d'être de plus en plus simple, d'être trop simple. Effectivement, Keltis est un jeu simplissime, un jeu où vous allez avoir des cartes en main numérotées de 1 à 10 et vous allez faire comme une espèce de rami, les poser devant vous en essayant de suivre une suite logique qui fait que si vous brûlez des étapes, si vous posez par exemple après un 1, un 4, vous n'allez pas pouvoir reposer votre 2, votre 3, c'est à vous de savoir à quel moment vous allez décider de commencer des colonnes, pas des colonnes, piocher, pas piocher, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu. Il faut savoir que Keltis est un jeu agréable. C'est pas non plus un jeu qui va vous déchausser sans vous en rendre compte. C'est un jeu gentil qui vous permettra de jouer avec tout le monde. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 35 à 40 minutes maximum. Le prix est d'une 30aine d'euros, ce qui n'est pas très très cher pour ce type de jeu. Voilà, c'était Keltis de Rainer Knizia, le Spiel des Jahres 2008, qui arrive donc en français, là tout de suite. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
Alors, des jeux qui déchaussent sans qu'on s'en rende compte. Je ne connaissais pas cette expression. C'est Monsieur Fall, de Monsieur Fall de TrickTrack.net. À la semaine prochaine. I can't see him. I think it's all there. Prince of Persia, Ubisoft. Alors, si on en parle cette semaine, parce que ça ne sort pas tout de suite, ça sort début décembre, mais c'est que Patrick et moi, eh ben, on a eu un petit peu de chance. On est allé à Montréal. Et
dans le studio de développement, oui.
Dans le studio de développement d'Ubisoft, on a passé une petite journée, un peu plus, au milieu des 160 personnes qui développent encore le jeu, qui finissent de développer le jeu. Et donc, on a eu la chance d'y toucher, de manipuler, de discuter avec les gens qui l'ont fait, etc. Donc on va vous en parler un petit peu, mais tu vas commencer. Tiens, Patrick, allez, voilà, je te donne la main.
Je te remercie. Non, ben ouais, j'appréhendais un petit peu l'orientation cell shading du prochain Prince of Persia, c'est-à-dire qu'on avait vu des visuels depuis un petit moment.
Donc très genre dessin animé.
Ouais, parce que moi j'étais plutôt attaché au côté réaliste de la précédente trilogie, donc qui était aussi développée chez Ubisoft. Hein. Et en fait, c'est plutôt bien parti, même très bien parti, parce que même si le jeu a clairement un look plus cartoon qu'autrefois. On reste quand même dans un univers réaliste et très très shadé au niveau graphique. Enfin,
je sais pas ce que t'en penses. C'est pas vraiment. Du coup, c'est pas vraiment du cel shading.
Non, voilà.
Il y a des aplats de couleurs. Il y a des choses. On n'est pas
change
sur,
par rapport à
la texture réaliste, mais c'est très très étudié
au niveau design. Ce qui est intéressant en cette visite, c'était
c'est une bonne chose parce que moi j'avais du mal avec ce que devenaient les précédents Prince of Persia on avait l'impression que le personnage c'était le président du fan club de Marilyn Manson. Enfin, ça me posait un peu des problèmes.
Surtout sur le 2, qui est le numéro de la trilogie que j'ai pas du tout aimé sur la dernière trilogie. Mais
là, on a plus un retour vers avant l'ambiance Mille et Une Nuits, en fait.
Du design et du look.
Et ce qui était intéressant sur cette visite donc du studio Ubisoft, qui est quand même un des gros studios de développement, un des plus gros au monde.
2000 personnes dans le bâtiment, c'est énorme. C'est dans une ancienne usine de textile. Donc,
ce qui était intéressant, c'était pour nous de voir toute la chaîne de fabrication d'un jeu vidéo, d'une machine comme ça qui dure, sur 3 ans. Donc tu disais 160 personnes qui travaillent sur un jeu comme ça.
Pas sur 3 ans, hein. Les 160, c'est sur la dernière année.
Ça monte en puissance au fil du temps, mais c'est quand même une machine sur 3 ans avec des corps de métier complètement différents. Ce qui est intéressant, j'ai rencontré des spécialistes de l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, qui va être assez intéressante sur ce titre, parce qu'il faut savoir que le prince ne sera pas seul, mais sera accompagné par un personnage féminin qui va le suivre et qui va l'aider. Qui va souvent l'aider, ça ne sera plus le personnage boulet qu'on est souvent obligé d'aider. C'est un peu ça en général quand on a un personnage avec nous. Là, c'est l'inverse. C'est plutôt elle qui va nous aider lorsqu'on chute d'une plateforme. Parce que le principe du jeu, c'est qu'on ne meurt plus. Sur Prince of Persia, c'est qu'on a le game over.
Ça peut faire peur, et j'avoue que quand j'ai appris ça, ça m'a fait un petit peu peur.
On a tous un peu peur,
mais c'est vrai qu'à la manipulation, c'est au contraire plutôt agréable.
Concrètement, on chute d'une plateforme, ce qui arrive malheureusement souvent dans un jeu de plateforme, et on n'a plus le game over, continuer machin. Non, on a le personnage féminin qui nous rattrape et qui nous ramène
à la dernière plateforme stable.
C'est moins prise de tête, c'est plus fluide, les parties sont moins. Enfin,
c'est pas limité, parce que dans les cendres du temps, il y avait cette possibilité de revenir en arrière. C'était limité, on pouvait pas le faire à volonté.
Il n'y a plus de notion de voyage dans le temps, de sable du temps. On a complètement changé. D'ailleurs, en fait, le prince n'est plus le même personnage. Enfin, il y a un espèce de clin d'œil au début, mais c'est donc on n'est plus sur la même histoire. En fait, on est vraiment plus sur la même histoire. Et il n'y a plus de voyage dans le temps. Mais le sauvetage est illimité, en fait. Sauf que quand c'est un sauvetage dans les phases de plateforme, on revient à la dernière plateforme stable, ce qui peut dater en fait, parce que on peut courir sur les murs, s'accrocher à un poteau, etc. Et pendant les combats, parce que donc il y a des combats, la spécificité des combats, c'est qu'on se retrouve toujours face à un seul ennemi. Il n'y a pas de combat contre plusieurs ennemis, donc c'est vraiment ça. Et quand on meurt, en fait, donc Elika, notre partenaire, nous sauve quand même, mais l'ennemi regagne de la vie. Moi, ce qui m'a fait passer un temps dingue sur un des boss, qui est le Hunter, donc qui est un des premiers boss. Et c'était un temps dingue parce que je grignotais un petit peu, je galérais pour grignoter un petit peu. Il me foutait 2-3 trempes et puis je me relevais, mais lui aussi. Et du coup,
en tout cas, il y a des parties pris comme ça qui peuvent un peu, on se demande avant de le voir tourner, et finalement, ça s'annonce plutôt intéressant. Des parties pris osées, mais qui...
Alors il y avait juste un point, c'est vrai que donc nous on a eu donc cette occasion là d'aller voir mais on n'est plus dans le développement d'un jeu vidéo. Enfin, si on est dans le développement d'un jeu vidéo, le résultat final est un jeu vidéo, mais on était vraiment dans la phase de production d'un blockbuster.
C'est clair.
D'un jeu à 15 millions de dollars. Quand je vais voir nos amis de chez Arkedo qui font des jeux DS à 4 à Paris, il y avait cette impression là que c'était plus la même chose. Enfin, qu'il y avait l'industrie commence à être vraiment séparé en deux.
Et en même temps, c'était apparemment très spécialisé, parce que par exemple, le studio Valve est connu pour avoir des fonctions un peu floues, tout le monde peut apporter son idée ailleurs. Chez Ubi, c'est pas du tout ça, c'est chacun. Moi je fais de l'IA, c'est que de l'IA, moi que de l'animation, c'est ça alors.
C'est vraiment ça.
C'est taylorisé.
C'est très très taylorisé, voilà. Même on a eu l'occasion d'aller voir l'université, le campus Ubisoft, comme ils appellent ça, bon, qui n'est pas du tout un campus, c'est un étage dans un gros bâtiment. bâtiment, mais même où les élèves, il y a ceux qui vont faire de l'animation, ceux qui vont faire de la modélisation, ceux qui vont faire du game design, ceux qui vont faire du level design. Donc c'est très très segmenté. Ubisoft, c'est assez rigolo pour la petite anecdote. Ubisoft a essayé de, disons, de contrecarrer un peu l'effet. Voilà, quand on a autant de personnes qui travaillent sur des petits détails, genre le mec il est textureur, donc il va passer des mois à dessiner les textures des murs et ce genre de choses. Mais pour qu'il y ait une espèce de cohérence, ils ont mis une phrase. Enfin, il y a une espèce de thématique générale
sur le jeu
pour que chacun à sa manière participe. Mais c'est vrai que voilà, on n'est plus dans le petit.
Ce qui est intéressant, enfin, on a aussi visité le studio de motion capture, donc ouais. Là où on capture les mouvements d'acteurs qui seront utilisés notamment pour les cinématiques ou d'autres passages du jeu, où là on se dit vraiment qu'on se rapproche vraiment de des techniques du cinéma complètement, avec des acteurs qui sont employés, avec des techniques de mise en scène.
Ouais.
C'est assez impressionnant ce studio de motion capture avec les 50 caméras qui encerclent les acteurs, et ouais, on est vraiment proche de techniques du cinéma, de façon de faire. Sauf que
les 160 personnes qui travaillent à la construction d'un jeu sont toutes devant leur ordinateur. Enfin, il y a quand même pas. C'est très très impressionnant. Mis à part le bruiteur qu'on a vu.
Qui travaille vraiment à l'ancienne.
Voilà, qui est dans une espèce de cave.
C'est impressionnant.
Avec plein de matériel un peu bizarre. Voilà, donc Prince of Persia, on vous en reparlera début décembre. C'est donc chez Ubisoft sur PS3 360.
Entre autres, peut-être d'autres plateformes à vérifier, mais on en reparlera.
On en reparlera. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Erwan?
Là en ce moment, je lis un livre de Kazuo Ishiguro qui s'appelle Auprès de moi toujours. Alors Kazuo Ishiguro est né au Japon, mais c'est quelqu'un qui vit depuis l'âge de 5 ans, c'est un quinquagénaire maintenant en Angleterre. C'est un écrivain anglophone qui est peut-être surtout connu pour le roman Les vestiges du jour, qui a été adapté en film par James Ivory avec l'histoire d'un vieux majordome anglais. Et donc ce livre-là, Auprès de moi toujours, c'est un livre qui date de 2005 et qui commence en racontant un peu la vie de sur le mode du souvenir dans une institution d'éducation anglaise, etc., qui paraît assez classique. Et puis au bout d'un moment, on comprend que c'est des clones et qui sont et qui sont là. Bon, je veux pas trop en dire, mais que disons leurs organes vont pouvoir servir. Donc c'est ça en fait qui est très intéressant. Je veux pas en dire trop pour pas dévoiler trop ce livre là mais c'est disons de la science-fiction qui ressemble pas à de la science-fiction et qui est de la science-fiction quand même. Enfin voilà, donc, je veux pas en dire trop parce que j'en ai déjà trop dit. Donc ça s'appelle Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro.
D'accord. Alors, Patrick,
moi je suis allé voir Appaloosa. Je sais pas si vous avez entendu parler.
Appaloosa. Ça me dit quelque chose.
Un western.
Ah oui,
Enfin, un western. Ça faisait des années que j'avais pas vu un bon western, voilà, au cinéma. Donc, avec Ed Harris, qui est aussi directeur du film.
En français, on dit réalisateur.
Réalisateur du film. Viggo Mortensen, Jeremy Irons. Donc, quand même des pointures à l'écran. Et très, très bonne surprise. Enfin, vraiment, pour les fans de western, c'est vraiment.
Du western très classique, en fait.
Assez classique, ouais. C'est assez en longueur et tout, mais c'est super bien joué. Et puis, voilà, rien que les têtes d'affiche. Un bon scénar. Enfin, c'est voilà. Moi, j'étais un peu en manque de western depuis quelques temps. Et là, voilà, c'est vrai que depuis
50 ans, on en a eu assez peu, mais c'est une bonne nouvelle.
Voilà, une bonne surprise, en tout cas.
Eh bien, moi, pour ma part, je continue. Alors, je préviens les auditeurs, au moins pour les 8 semaines à venir, je ne parlerai que de comics, parce que je suis en train de tomber dedans, de redécouvrir, parce que j'ai des années de retard. Alors, la dernière, enfin, c'est pas une trouvaille, parce que c'est une très, très grosse vente, un très, très gros succès de Marvel ces dernières années, c'est Marvel Zombies. Donc, il y a un virus zombie qui touche les super-héros et en fait ils sont infectés et donc ils bouffent toute l'humanité en 3 jours. Parce que en fait des zombies super-héros c'est un petit peu difficile. Donc au bout de 3 jours, ils ont faim, ils commencent à se friter la gueule entre eux, mais ils sont pas comestibles et donc ils cherchent une solution. C'est Robert Kirkman au scénario. J'avais déjà parlé de BD de lui. Il est responsable de Walking Dead aussi et voilà, il y a le tome 1 et le tome 2 et le tome 3, alors les plus importants étant le tome 1 et le tome 3. Voilà, c'est Marvel Zombies que je conseille pour tous ceux qui connaissent, qui ont un minimum de culture Marvel. C'est un vrai délice. Ben voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'IB Labo.
L'IB la bouche.